La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Cela fait 3 jours déjà qu'un mouvement de contestation sociale s'est emparé des principales villes d'Irak.
3 jours, 2 nuits de manifestations qui réunissent des milliers de jeunes Irakiens pour exiger le départ des élites jugées corrompues et dénoncer l'absence d'emploi, de perspectives économiques pour la jeunesse. 3 jours, 3 nuits donc, et dont deux à défier le couvre-feu qui a été imposé par le premier ministre irakien Adel Abdul Mahdi. Et déjà plus de 30 morts, dont certains abattus à balles réelles. Ce qui frappe dans ce soulèvement que personne n'a vu venir, c'est qu'il n'est relié apparemment à aucun parti politique, à aucune allégeance religieuse, telle que nous le décrit en tout cas Al Jazeera, même s'il est clairement parti, ce mouvement, des quartiers chiites de la capitale et des grandes villes du pays. Pour le correspondant à Bagdad de la chaîne qatarienne, le chef du gouvernement irakien en fonction depuis à peine 1 an, se retrouve là face à la première contestation claire de son pouvoir, et elle est donc de nature sociale, économique, avant toute autre chose, une explosion de colère brute, sans discernement de la part de jeunes citoyens qui reprochent au chef du gouvernement de ne pas leur donner de travail, de ne rien faire pour leur offrir une vie digne, échappant à la fatalité de la misère, alors qu'on parle là du 5e pays au monde le plus riche en pétrole, comme nous le rappelle la chaîne panarabe Al-Oura.
Pas de leader dans ce mouvement, mais un objectif clair. La chute du gouvernement Abdul Mahdi.
Oui, un gouvernement accusé, et c'est significatif, hein, tout aussi bien depuis mardi, d'avoir été mis en place par les Américains que de manger dans la main des Irakiens. Après donc 3 jours au cours desquels il a laissé la police et l'armée tirer à balles réelles sur la foule, faisant, on le rappelle, au moins 31 morts et 1 millier de blessés, Adel Abdul Mahdi est donc apparu à la télévision irakienne hier soir, mais il n'a pas dit ce que les manifestants attendaient, selon le quotidien irakien Az-Zaman. Il a promis des salaires pour toutes les familles au chômage. Il a dit que la colère était légitime, mais il a condamné le recours à la violence, promettant de faire preuve de plus de pédagogie dans ses réformes et précisant tout de même que son gouvernement n'avait pas de baguette magique pour régler d'un coup tous les problèmes. Je ne sais pas vous, mais il me semble que j'ai déjà entendu cette formule quelque part.
Voilà une réponse qui ne semble pas de nature à apaiser les manifestants, mais sait-on d'où est partie cette soudaine contestation, Camille ?
Alors, il faut se rappeler que l'Irak, hein, déjà depuis 1 an, avait vu au mois de novembre, au mois de janvier en particulier, des éruptions de colère sociale un peu similaires. On en avait parlé ici même, notamment parce que les manifestants irakiens avaient eu l'idée d'enfiler des gilets jaunes. Eh bien, depuis ce mardi, si les vêtements réfléchissants ne sont plus de sortie, on retrouve à peu près les mêmes mots d'ordre dans le mouvement. Lutte contre la corruption, contre le chômage et la misère, contre les ingérences étrangères en Irak. Le site Middle East Eye remarque que les manifestations sont particulièrement vives dans les régions les plus touchées par les bombardements de la dernière guerre contre Daesh. Les promesses de reconstruction n'ont pas été tenues et ça crée beaucoup de défiance, de frustration dans la population. Et puis il y a la figure tutélaire qui se dégage tout de même de ce mouvement, et c'est The National, autre portail d'infos sur le monde arabe, qui nous la présente. Il s'agit du très populaire général Abdel Wahab al-Saadi, président du service de lutte antiterroriste irakien, réputé incorruptible, héros de la guerre contre Daesh, libérateur de la ville de Mossoul et de sa région. Le service arabophone de la BBC nous apprend qu'une statue de cet Abdel Wahab al-Saadi devait être inaugurée sous peu à Mossoul, mais qu'elle a été soudainement retirée de son piédestal en pleine nuit le week-end dernier, alors que l'on apprenait dans le même temps la mutation du général vers un autre service. Alors, avec cette apparente disgrâce qui n'a pas été justifiée par le pouvoir politique, on tient sans doute l'étincelle du mouvement de contestation, mais personne ne sait si l'incendie à présent va continuer à se propager et comment l'éteindre, surtout pour ne rien arranger. Al-Arabiya évoque cette immense pèlerinage chiite d'Arbaïn qui vient de débuter et qui va voir 20 millions de pèlerins converger à pied vers la ville sainte de Kerbala en plein centre de l'Irak. Le gouvernement irakien, par souci de sécurité, a fait fermer le principal point de passage de la frontière avec l'Iran.
On termine la semaine avec l'histoire d'une œuvre d'art éthiopienne volée, retrouvée aux Pays-Bas et qui devrait bientôt rentrer au pays.
Oui, une histoire qui est partie pour bien se terminer, une fois n'est pas coutume. Elle nous est racontée par le quotidien néerlandais de Volkskrant. C'est celle, cette histoire, d'une couronne de cérémonie religieuse en métal ouvragé qui date a priori du 18e siècle et qui représente, nous dit-on, ce qui se fait de plus précieux en matière de patrimoine éthiopien sur le marché mondial. Cette couronne, elle vient de refaire surface après avoir été cachée pendant plus de 20 ans par un fonctionnaire néerlandais néerlandais. Lui s'appelle Sirak Asfaw. Il est d'origine éthiopienne, réfugié aux Pays-Bas où il a obtenu l'asile politique il y a 41 ans. Et Sirak raconte aujourd'hui qu'il a découvert l'œuvre d'art volée un beau jour, par hasard, dans le bagage qu'avait déposé chez lui un compatriote qu'il hébergeait pour quelque temps. Notre homme s'est tout de suite douté qu'il s'agissait d'une œuvre de grande valeur, qu'elle avait été vraisemblablement volée et que son hôte s'apprêtait à la revendre au marché noir. Il a donc décidé de la subtiliser à son tour pour éviter qu'elle ne disparaisse dans une collection privée. La suite du récit, on la trouve dans les pages de l'Algemeen Dagblad. Une fois la couronne mise à l'abri, Sirak s'est retrouvé face à un dilemme qui illustre à lui seul l'épineuse question de la restitution des œuvres d'art africaines spoliées. D'un côté, s'il décidait de la confier à un musée néerlandais, il n'était pas du tout certain qu'elle serait un jour rétrocédée à l'Éthiopie. De l'autre, s'il la remettait lui-même aux autorités éthiopiennes, eh bien, il n'avait pas de garantie qu'elle ne serait pas à nouveau volée et revendue. Voilà pourquoi la pièce d'art est restée au secret chez lui pendant 21 ans. Et ce n'est que cette année, avec le changement de pouvoir politique à Addis Abeba, l'arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed, avec tout ce qu'il incarne en matière d'ouverture, de démocratisation et de lutte contre la corruption, que Sirak Asfaw a estimé qu'il pouvait enfin faire confiance aux autorités éthiopiennes. Il a donc exhumé sa couronne pour entamer les démarches de restitution. La question désormais semble de savoir si la fameuse couronne liturgique retournera dans la cathédrale du nord de l'Éthiopie où elle a été volée, ou bien si elle sera exposée à la vue du plus grand nombre dans un musée national d'Addis Abeba.
Merci beaucoup Camille Magnard. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.